partager une réflexion sur la cause de la souffrance. Il y a de la souffrance dans nos vies, pas toujours, mais quelquefois. Et il y a une cause à cette souffrance. Et d'avoir une réflexion et d'approfondir au moment où la souffrance est là, cette cause dont le Bouddha a parlé comme étant un désir. C'est une grande aide pour pouvoir nommer et comprendre et peu à peu lâcher prise. Le désir, c'est la vie. Nous désirons avoir un enfant. Probablement que quand nous venons, Dieu sait d'où, nous désirons naître. Maître Eckhart dit qu'au fond, la seule raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est pour nous libérer du désir, de l'attachement, et comprendre où est notre vraie origine. Qui est dans ce non-désir. Parce que lorsque je désire, ça veut dire que je suis là et que j'aimerais être ailleurs, ou avoir autre chose. Que ce soit avant, que ce soit après, c'est pas assez là. Donc c'est souffrance. Et si la souffrance peut faire partie de ma vie, la fin de la souffrance peut aussi faire partie de ma vie. Et d'une certaine manière, c'est moi qui crée la souffrance par mon aveuglement. Je peux aussi créer la fin de la souffrance par cette responsabilité que je prends, non seulement d'être là, ici et maintenant, parce que en étant là, avec cette poussée du désir, je fais œuvre de purification, mais aussi en employant notre sagesse pour réfléchir encore et encore sur cette puissance du désir ou de la soif, tanha en pali. Évidemment que nous souhaitons beaucoup être libérés de l'aversion, de tout ce qui bloque, obstrue, limite. Mais dans quelle mesure est-ce que nous souhaitons vraiment être libérés du désir? Et il ne s'agit pas de faire du désir un problème. Nous n'avons rien à supprimer ou à annihiler, ou à résoudre, mais nous n'avons rien non plus à poursuivre et à nous accrocher. Mais nous avons à voir, oui, ce désir est puissant. Il est puissant par rapport à la nourriture, par exemple. Combien nous sommes attachés à la nourriture? Je me souviens encore, dans une retraite, il y avait un dessert, et puis il y avait la file, puis il y avait une dame devant moi, puis il y avait une autre dame, puis moi, puis je regardais, il ne restait presque plus de dessert. Je me disais, ça va juste aller, je vais juste avoir ma part. Puis voilà que la dame qui était juste avant avait pris une grosse part, donc la dame qui était après avait très justement terminé le dessert. Eh bien, je m'en souviens encore. Incroyable. Alors que je n'avais absolument pas faim, j'étais nourrie, mais le désir. Le désir de réussite. Il y a trois sortes de désirs dont le Bouddha a parlé. Kama, tanha, c'est le désir de réussite, d'être reconnu, valorisé, de gagner, d'avoir plus. Nous ne sommes jamais tristes lorsqu'on nous dit que nous allons gagner un peu plus, même si nous avons bien assez. Et même si nous avons bien assez, mais qu'on nous dit, ben ma foi, ma pauvre, tu auras 300 francs de moins par mois. Très intéressant de voir comment le gain et la perte au niveau matériel créent un impact sur le corps et l'esprit, un impact important. Claire parlait de quelqu'un qui vient nous prendre notre chemin. Dehors, j'ai mon chemin. Et voilà, quelqu'un vient sur mon chemin. Ou dans notre chambre. Dans ma chambre, j'ai ma chambre. Si quelqu'un venait dans notre chambre. Le désir est complètement lié à cette identification, à ce sens du moi, ce sens du propriétaire. Et le plaisir, combien nous sommes attachés à notre plaisir. Et bien sûr, quand il y a le désir pour la réussite, la louange, le gain ou le plaisir, il y a la peur de l'échec, de ne pas être valable, de ne pas être aimé, reconnu, de perdre. Et de vivre ce qui est désagréable, déplaisir. Et étonnamment, lorsque nous sommes attachés au plaisir, là où il y a une sensation agréable, qui c'est qui vient s'enfiler? C'est Mara. Mara, c'est vraiment non seulement ce qui bloque et obstrue, mais aussi ce qui veut s'approprier. Mara veut retenir, veut garder, veut. Et là où il y a l'agréable, il y a la cause de la souffrance qui s'infiltre très souvent. Et en retraite, c'est subtil comment cet attachement premier, l'attachement, la cause première de la souffrance, qui est l'attachement à moi, arrive. Nous sommes attachés et étonnamment, nous sommes attachés autant à ce qui est douloureux qu'à ce qui est bénéfique. Nous créons ce sens de moi, ce sens de propriété par rapport au doute ou par rapport à la peur. C'est moi qui ai peur et je m'accroche à cette peur. Ou c'est moi qui suis agitée. Et nous nous accrochons parce que nous avons un désir de ne pas avoir ce qui est désagréable. Ou un désir de maintenir ce qui est agréable et qui risquerait de nous échapper. Le Bouddha parle de l'origine de la souffrance en disant « c'est l'avidité qui fixe l'expérience, qui est accompagnée par l'attrait et la convoitise, qui est attirée par ceci et cela. » En d'autres termes, l'avidité pour le désir des sens, le désir d'existence et le désir de non-existence. Et sur quoi cette avidité est-elle dépendante pour qu'elle arrive et grandisse en nous, sur tout ce qui est source d'amour et de gratification. Nous nous accrochons à ce qui est bénéfique et ainsi nous créons la souffrance même sur ce qui est beau et valable. Et nous n'allons nous en libérer que d'une seule manière, c'est en voyant ce processus. Le désir d'existence. J'ai envie de m'activer, de faire des choses, d'écouter de la musique, d'ouvrir mon portable, d'aller faire une balade, de vivre quelque chose d'intense, de régénérant. Mais le désir d'existence, c'est aussi juste le désir de vivre. Et la peur de la mort. J'ai perdu ma belle-fille il y a quelques mois. Et l'impact sur le corps et l'esprit était massif. Et c'était vraiment ce désir, je le vois maintenant. À l'époque, la seule chose que je pouvais faire, c'était pour être un peu libre, c'était chanter et ça me faisait pleurer. Et ça libérait un peu cette emprise puissante du désir d'existence pour l'autre. C'était insupportable d'imaginer que je ne la verrais jamais plus. Fini. C'est quelque chose. Et je sentais tout mon corps et mon esprit qui étaient sous l'emprise. Il y avait la conscience était là, mais il y avait cette emprise de l'existence, du besoin d'existence. Et ça a collé pendant au moins 2-3 mois. Alors je vivais, mais ce bhavatanha, ce besoin d'existence était là, cette confrontation à notre finitude. Et ce qui était beau, c'est de voir comment, avec le temps, le corps et l'esprit s'habituent. Nous nous habituons au manque, à la perte. Et l'équilibre se retrouve. Et ça, c'est quelque chose qui était massif à ce moment-là dans ma vie, que beaucoup d'entre nous expérimentent, hein, la perte de quelqu'un, ou la perte d'un... Il y a des pertes qui sont importantes aussi dans les séparations, dans les trahisons. Lorsque l'injustice est évidente, c'est difficile d'accepter cette impermanence. Et alors le désir vient se mettre là, la soif qu'il y ait autre chose. Compassion. Nous pouvons juste être sensibles à cette nature humaine qui est vulnérable, qui est belle dans sa vulnérabilité et qui mérite du soin et de la compassion, que ce soit chez nous ou chez l'autre. Et le désir de non-existence, c'est ce désir d'avoir autre chose que ce qui est là. Et ça peut être lié à toute la personne, je me sens nulle, je suis vraiment totalement nulle. Et Dieu merci, ça ne se voit pas sur mon visage, comme ça je peux un peu passer inaperçue, je ne veux surtout pas être vue. Ça n'est pas une tare, c'est un désir en creux, ce désir de non-existence. Et ce qui nous sauve, c'est toujours d'amener la lumière de la conscience. Ah, là, j'ai vraiment envie de disparaître. Ou... je me sens mal, je me sens pas adéquate, je me sens des fois on peut même avoir des doutes sur notre place sur cette terre. Est-ce que j'ai vraiment une place sur cette terre? Est-ce que je suis aimée, acceptée? Est-ce que j'appartiens? Et lorsque nous nommons que c'est juste le besoin de non-existence, nous mettons l'énergie du moment, qui est douloureuse, en perspective. Ça n'est pas moi, mon problème, c'est quelque chose que chacun d'entre nous vit parfois. Et ça change beaucoup au niveau de la libération. Nous ne sommes pas totalement enfouis dans cette identification à moi. Nous sommes un peu libres. Ah ouais, tout d'un coup, il y a cet intérêt que la présence amène. Ah, c'est le besoin de non-existence. Ou alors, quand nous sommes bien sûrs de nous, que nous prenons bien notre place, nous trouvons trop juste bizarre que tout le monde voit pas comme on est bien. On peut juste nommer aussi, ah ça c'est le besoin d'existence. Et faites l'expérience, combien ça change. Le Bouddha dit, Bhikkhu, moine, que quelqu'un puisse, ici et maintenant, abandonner la souffrance sans abandonner la tendance sous-jacente du désir pour le plaisir des sens, sans abolir la tendance sous-jacente de l'aversion vis-à-vis de ce qui est douloureux, sans extirper la tendance sous-jacente de l'ignorance, en lien à ce qui est ni agréable ni désagréable, ceci est impossible. Pour abandonner ce désir qui crée l'attachement à moi, il n'y a pas d'autre chemin que de le rencontrer encore et encore. Et c'est maintenant. le désir de donner un bon enseignement. C'est pas le bon enseignement qui a le problème, c'est cet élan du désir. Est-ce que je peux abandonner et faire ma part sans qu'il y ait ce sens du « je » qui complique tout et qui n'est pas utile. Qui est très utile pour autant que je le mette à la lumière de la conscience. Abandonner, on peut dire que c'est comprendre. Que le désir n'est pas le problème. Qu'il ne s'agit ni de prendre parti pour ou contre le désir, mais de le voir quand il émerge et de voir quand il est absent. Il prend différentes couleurs, le désir. Ça peut être cet enchantement. Nous sommes enchantés par le monde. Nous sommes enchantés par nos projections de ce que pourrait être une bonne concentration, de ce que pourrait être une bonne retraite. Il prend la couleur de la passion, nous aimons l'intensité. Lorsque ça devient un peu plat et neutre, nous sommes éteints. Au lieu que la paix de quelque chose de simple et de neutre nous remplisse, il y a cette quête de quelque chose. Nous voulons quelque chose. Je vous lis encore le Bouddha qui dit: si cette avidité collante et grossière vous submerge dans le monde, votre affliction va grandir comme l'herbe après la pluie. Si dans le monde vous surmontez cette avidité grossière, difficile à vaincre, les peines vont glisser sur vous comme des gouttes d'eau sur des feuilles de lotus. Et il y a un lien direct entre le développement de la pleine conscience, être là maintenant, j'espère que vous y êtes, que votre corps est là, et dans une retraite, la continuité de cette conscience est importante, pas tellement l'expérience que je fais, peu importe, ça change, je m'y attache ou je la lâche, mais je continue à être en conscience et je vois tous ces... cette vie qui est là, je me dégage. Il y a un lien direct entre le développement de la conscience et la capacité d'être libéré du désir. Que le désir coule sur nous plutôt qu'il nous chope. Nous sommes attrapés. Moi, je me sentais... au décès de Marie-Laure, je me sentais dans une emprise terrible. À un moment donné, je me disais, mais j'ai besoin d'un exorcisme. Pourtant, la conscience était là, je voyais tout, tout, tout bien. Mais j'étais en prison, vraiment en prison. Et c'était tellement bon d'avoir traversé ce réel. Je sens maintenant combien ça m'a apporté de libération au niveau de cet aveuglement d'attachement à la vie. Soif d'existence, qui est une souffrance, parce que nous vivons beaucoup mieux si nous sommes moins attachés. Et il y a un lien entre la pleine conscience et cette libération du désir. Le Bouddha donne l'image d'une cuillère de sel. Si la pleine conscience a la grandeur d'un verre d'eau et que je mets une cuillère de sel, ben ça goûte fort le sel. Mais si la conscience s'ouvre et que c'est une bassine, ça va déjà mieux. Si c'est une piscine, ça va franchement bien. Et puis si c'est le lac Léman, j'ai beau mettre une cuillère de sel dans le lac Léman, l'aveuglement ne va pas être goûté. Alors, quand on développe la conscience, qu'elle est large, qu'elle reçoit le corps qui est là, avec l'esprit comme il est, des fois bien, des fois moins bien, mais aussi cette perception qu'il y a les autres avec leur propre esprit, leur propre corps, ce qui va mieux, ce qui va moins bien et qui change. Alors, le désir émerge, mais il ne colle pas. Nous sommes désenchantés, dépassionnés, et il y a la cessation. Dans le Dhammapada, il est dit: si ses racines demeurent entières et fortes, un arbre, même coupé, va repousser. De même, si l'avidité latente n'est pas déracinée, la souffrance revient encore et encore. Nous coupons la souffrance à la racine. Nous déracinons cet attachement au moi, qui est le résultat du désir, grâce à la conscience. Et c'est un chemin précieux. C'est Bhante Gunaratana qui dit, c'est un chemin précieux mais difficile. Mais il est possible. Nous pouvons déraciner, couper la souffrance à la racine. Il vaut mieux faire ce qui est difficile mais possible que continuer à faire ce qui est impossible en poursuivant notre désir. Et tout ça juste avec cette capacité de voir avec compassion, patience, bonté, bienveillance, tendresse. Parce que il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Juste un pas après l'autre, c'est tellement bon. Nous n'avons pas besoin d'aller plus vite que ce qui nous est demandé. Chaque chemin est unique et merveilleux. Et cette ouverture du cœur à Tanha, à ce désir humain, elle commence dans l'assise avec les obstacles, lorsqu'il y a l'aversion, juste voir, ah, c'est un moment d'aversion, l'exposer à la lumière, sentir le mal-être et ne pas succomber à l'envie de lui donner un bon coup de pied. Quand il y a l'agitation, Est-ce que je peux coexister avec cette énergie pénible? Est-ce que je peux avoir le corps présent? Ok, ça s'agite, mais le corps est là. Je ne m'abandonne pas, c'est-à-dire, on veut s'abandonner à terme, mais nous ne nous laissons pas seuls avec les énergies de l'ombre. Il y a la conscience et je le sais. Je suis là avec. Et c'est possible d'avoir ensemble l'agitation et la conscience et la présence corporelle. Et avec la somnolence, je peux m'intéresser. Comment est-ce que je m'endors? Comment c'est? Je la mets en lumière. Plutôt que d'avoir qu'une envie, c'est de plus dormir, ou bien de me laisser aller complètement parce que c'est relativement agréable et que le temps passe vite. Et de même le doute, je le reconnais, je le nomme. Je l'accepte. Et je sens comment il abandonne. Il lâche la partie. Et le désir, je le sens pour ce qu'il est et je lâche l'objet du désir. Le problème avec le désir dans l'obstacle à la concentration, c'est que je donne beaucoup trop d'importance à l'objet du désir. Alors que ce qui demande à être conscientisé, c'est le mouvement du désir. J'ai retrouvé une parole que j'avais écrite pendant une retraite que je vous partage. Après l'intensité des rencontres avec le paradis et l'enfer, vient un temps où il y a une solidité, une simplicité, un certain contentement pour rien. Parfois tu t'assieds pour rien, tu regardes bouger les arbres dans le vent pour rien. Tu étudies les suttas pour rien, tu respires pour rien, tu ris pour rien. Il y a une grande douceur, un brin de tristesse et quelque chose de cocasse à faire les choses pour rien. C'est comme si tu avais coupé la corde qui tient les 300 kilos que tu tires sans cesse derrière toi. Un moment où c'est la fin du désir. Nous pouvons parler pour rien, se rencontrer pour rien, être là pour rien. Et c'est bon, c'est assez peut-être. Le désir, c'est la vie. Nous sommes sur cette terre pour une seule raison, c'est pour abandonner le désir. Et alors, il y a ce qu'on appelle le vœu du Bodhisattva. Le Bodhisattva souhaite revenir sur cette terre pour une seule raison, c'est pour aider les autres à se libérer du désir. D'une certaine manière, la méditation nous mène à être prêts à lâcher même la vie. Et être prêt à lâcher même la vie, ça veut dire que lorsque je viens m'asseoir sur mon coussin, je suis prête à accepter l'instant tel qu'il m'est offert. Je questionne, qu'est-ce qu'il va y avoir, hein? Je ne sais pas. Mais je prends ce qui vient. Parce que ce qui vient, c'est ce qui doit venir. C'est ce qui nous est offert pour grandir. Il y a cette confiance. Je vais finir avec une très belle parole que j'avais lue un lundi, ce qui était là lundi, la rambande sur la vieillesse de Louis Evely. On devrait tous être vieux quand on lit ça. C'est bien d'être vieux quand on est jeune. La vieillesse, c'est l'automne de l'existence. Enfin, on ose être soi-même. On se moque des modes, du respect humain, des ambitions sociales. On sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime. On devient disponible à la beauté du monde et à la misère des autres. On marche vers son affranchissement. On s'est donné le droit d'exister. Et si nous avons vécu jusqu'ici un peu mort, c'est le moment de nous préparer au moins à mourir vivant. Extérieurement, tout se rétrécit, mais intérieurement, tout s'élargit. Je vous propose de rester un moment en silence.